Dans le podcast d'aujourd'hui, Laura et Matteo, étudiants en BTS, MOS, Management Opérationnel de la Sécurité, au sein de l'enseignement supérieur ESCR à Pyramide, situé à La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie, vont nous parler des passerelles possibles entre les pompiers et la sécurité incendie. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la sécurité privée, La Ligne Rouge.
Bonjour à tous, je suis Matteo Cassin et aujourd'hui je suis accompagné de Laura Baduel.
Bonjour.
Et nous allons vous présenter les passerelles entre les métiers de la sécurité incendie et les sapeurs-pompiers, et inversement. Alors nous allons voir dans un premier temps quelles sont les spécificités de chaque métier, quel lien il y a entre ces deux métiers. Nous verrons ensuite du coup les passerelles possibles pour passer d'agent de sécurité incendie à sapeur-pompier et inversement. Et enfin, nous analyserons les avantages, les inconvénients de ces passerelles en proposant des axes d'amélioration. Tout d'abord, est-ce que Laura, tu peux nous parler de ces deux métiers ?
Bien sûr. Donc la sécurité incendie tout d'abord, qui est un axe important dans notre quotidien. Donc les agents de sécurité incendie aujourd'hui sont réglementés par l'arrêté du 25 juin 1980. Et cet arrêté-là, il impose une surveillance des établissements recevant du public par un service de sécurité incendie, donc d'après l'article MS 45. Et ce sont les SIAP qui assurent ce service. Donc les SIAP, ils sont régis par un arrêté du 2 mai 2005 et ils ont pour mission de prévenir tout danger lié à un incendie dans un établissement.
Donc ils font majoritairement de la prévention, mais est-ce qu'ils interviennent aussi ?
C'est ça, donc ils ont un gros rôle dans la prévention. Donc ils vont réceptionner, traiter les appels qui concernent les risques d'incendie, donc grâce à un SSI. C'est un système de sécurité incendie, donc là où le SIAP va pouvoir recevoir toutes les alertes qui concernent un risque incendie suite au matériel qui a été placé. Justement, concernant ce matériel, un SIAP il va devoir vérifier son bon fonctionnement, sa validité, etc. Donc, dans un établissement. Donc, toujours dans un rôle de prévention, il va aussi faire des rondes dans l'établissement quotidiennes et des levées de doutes également s'il y a un déclenchement. Et ensuite, il fera un rapport pour sa hiérarchie et pour le service de l'établissement qui va retracer en fait tous les événements qu'il y a eu au cours de la journée.
Donc il y a aussi une hiérarchie chez les SIAP.
Tout à fait.
On commence d'abord par les SIAP 1 qui sont des agents. Après, avec l'expérience des SIAP 1, ils peuvent passer SIAP 2 qui seront des chefs d'équipe qui vont gérer des agents. Et enfin, pour terminer, il y a les SIAP 3 qui, eux, sont chefs de service de sécurité incendie.
Tout à fait. Et donc, une des missions du SIAP, c'est aussi de demander les moyens nécessaires suivant la nature du problème, donc déclencher les sapeurs-pompiers. Ils vont être susceptibles de travailler aussi avec eux.
Exactement. Les SIAP seront comme des primo-intervenants sur des problèmes dans les établissements recevant du public. Et si l'intervention dépasse les capacités de SIAP, les pompiers pourront intervenir pour prendre le relais.
Ok, et donc les sapeurs-pompiers, quelle mission ont-ils précisément ? Quelles sont les différences avec un SIAP ?
Alors, les sapeurs-pompiers auront un rôle majeur dans le secours d'urgence aux personnes, les accidents de la circulation, les incendies et toute autre intervention.
D'accord, donc un sapeur-pompier, généralement, il intervient une fois le problème avéré.
Pas forcément.
Oui, pas forcément, puisqu'on le sait aussi, ils peuvent être acteurs de la prévention. Ils peuvent mettre en place des plans étarés. Donc un plan étaré, en quelques mots, c'est un dossier. Tu m'arrêtes si je me trompe, Matteo. C'est un dossier donc établi par le SDIS qui collabore avec les exploitants des établissements jugés sensibles par quelconque critère qu'il soit. Et ce dossier, il sert à anticiper les risques en rassemblant tous les renseignements qui pourraient être utiles à la décision en cas d'intervention nécessaire. Donc, il fait gagner du temps et donc c'est vraiment un point de prévention clé établi par les pompiers.
C'est exactement ça.
Et comme dans chaque métier, j'imagine qu'il y a également une hiérarchie chez les pompiers.
Oui, alors chez les pompiers, on commence avec les hommes du rang, qui vont commencer par du sapeur deuxième classe, sapeur première classe, puis caporal, caporal chef. Après, nous aurons les sous-officiers qui vont être sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, puis les officiers. Donc ça, c'est la catégorie la plus haute de la hiérarchie des sapeurs-pompiers, qui vont être lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel, qui eux seront chef de centre, chef de colonne ou chef de groupe, et qui endosseront de lourdes responsabilités.
D'accord. Et donc, eux auront sous leur autorité personne, entre guillemets ?
Non. Les officiers vont gérer, du coup, les sous-officiers, les sous-officiers, les hommes du rang.
D'accord. Et les sous-officiers vont gérer, y compris, la partie caserne et le bon déroulement des opérations sur le terrain.
Exactement.
Merci, Mathéo. C'est sûr que là, on comprend un peu mieux le détail des missions pour chaque métier et leurs différences. Un SIAP étant plus un agent de prévention, surveillance et qui va sensibiliser aussi le personnel des établissements, alors qu'un sapeur-pompier, lui, il interviendra plutôt pour réagir et va apporter tous les moyens nécessaires qu'un SIAP n'aura pas pour finaliser l'intervention.
Oui, donc c'est pour ça qu'il existe du coup des passerelles pour devenir sapeur-pompier à SIAP et SIAP à sapeur-pompier.
D'accord, donc est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur du coup les modalités pour ces passerelles ?
Oui, alors pour devenir sapeur-pompier à SIAP, un jeune sapeur-pompier ayant son brevet national des jeunes sapeurs-pompiers depuis moins de 3 ans pourra devenir SIAP 1 s'il repasse une formation complémentaire de 43h30 sans évaluation à la fin.
D'accord.
Un sapeur-pompier au grade de sapeur pourra également passer SIAP 1 avec cette même formation et sans évaluation finale. Ou un adjudant ayant la formation PRV1 pourra devenir SIAP 1 sans passer de formation complémentaire.
Donc sans formation ni évaluation par équivalence.
Exactement.
Donc ça, c'est pour être SIAP 1, pour être SIAP 2, du coup ?
Pour être SIAP 2, ça va être au grade de sergent, donc sous-officier, ou les grades supérieurs. Avec la formation PRV1, ils pourront passer une formation complémentaire de SIAP de 28 heures, sans évaluation finale. Ou alors, s'ils sont titulaires de la formation PRV2, là, il n'y aura pas besoin de formation complémentaire.
Super. Et donc, pour le SIAP 3, est-ce qu'il y a d'autres modalités ?
Pour les SIAP 3, ce sera à partir de adjudants, donc sous-officiers aussi. Les adjudants et les grades supérieurs, avec la formation de PRV2, ils seront obligés de passer une formation complémentaire de 24 heures sans examen final pour devenir SIAP 3.
D'accord. Et en fait, les sapeurs-pompiers, ils ont une obligation pour accéder à ça ?
Tous les sapeurs-pompiers, qu'ils soient actifs ou non, ils ont dans l'obligation d'avoir un diplôme de secourisme encore valable pour exercer en tant que SIAP.
D'accord. Donc, qui leur donneront accès aussi à la formation de SIAP.
C'est ça.
Ces modalités-là, on peut les retrouver où ? Enfin, quel serait l'outil qui pourrait nous aider à...
Alors, on retrouvera toutes ces informations dans l'arrêté du 2 mai 2005 à l'article 4, 5 et 6.
D'accord, donc là, on pourra vraiment...
Exactement, tout est écrit, tout est expliqué.
Très bien. Et donc, à l'inverse, donc un SIAP qui voudrait devenir sapeur-pompier ?
Un SIAP pourra devenir sapeur-pompier en fonction de son niveau de SIAP. Par exemple, un SIAP 1 va pouvoir intégrer les sapeurs-pompiers au grade de sapeur. Un SIAP 2 va pouvoir intégrer les sapeurs-pompiers au grade de sergent et un SIAP 3 comme lieutenant. Ça, c'est si le SDIS accepte, le SDIS dans lequel les SIAP souhaitent être recrutés. Et si le SDIS accepte, après une évaluation de l'aptitude des SIAP, ils pourront soit être dispensés de la formation initiale ou partiellement pour intégrer les sapeurs-pompiers.
D'accord, donc quand tu dis évaluation, c'est au bon jugé
Voilà, c'est au cas par cas en fonction de chaque SDIS.
Du dossier en fait qu'ils vont apporter au SDIS.
C'est ça.
Qui les exempteront ou non de formation.
C'est ça.
D'accord. Donc ce poids-là, il constitue un réel avantage pour les agents en fait.
Exactement, c'est un gros avantage puisque ça permettrait de changer de métier comme une reconversion professionnelle. ou alors un double métier. Par exemple, les sapeurs-pompiers volontaires sont très souvent SIAP aussi à côté. Et ça leur permettrait du coup de passer des formations en moins et d'être opérationnels dans ces deux métiers plus rapidement.
Donc ça peut être hyper intéressant en fait dans ces métiers où on sait qu'il y a une forte pénurie de main-d'œuvre, pardon, et qui donc pourrait pallier, en fait ces passerelles pourraient aider à pallier ce manque d'agents, à former des gens qui sont déjà intéressés par ce domaine-là et qui mettront moins de temps à être formés et pourront être plus facilement opérationnels, quoi.
Exactement. De plus, ça apportera aussi des connaissances supplémentaires sur ces deux métiers. Par exemple, un sapeur-pompier qui passe au SIAP pourra apporter des connaissances supplémentaires sur son métier, des connaissances techniques et opérationnelles à son équipe de SIAP, et inversement.
Donc il y a un réel échange d'informations qui peut être intéressant en termes de réussite des missions.
C'est ça.
Un partage de connaissances, quoi.
C'est ça.
Donc, on a parlé de la réduction de temps de formation. Est-ce qu'on pourra avoir plus de détails là-dessus?
Exactement.
Pour la SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3.
Un SIAP 1, de base, sans être sapeur-pompier, il met 10 jours à être formé. Et avec cette passerelle, du coup, il ne mettra que 43h30. Un SIAP 2, il met 11 jours à être formé. Et avec cette passerelle, il met du coup 28 heures. Et un SIAP 3, c'est le plus avantageux. Il met 24 heures grâce à cette passerelle, alors que pour être formé complètement, il met 30 jours.
Donc déjà un avantage aussi de temps, puisque souvent ça demande du temps de se faire former. Là, c'est plus accessible à un plus grand nombre.
Tout à fait, ils seront beaucoup plus vite opérationnels.
Donc j'imagine qu'il y a également un avantage financier à ce raccourci de formation.
Oui, c'est un avantage financier pour les managers qui recrutent de nouveaux agents, puisque c'est des formations en moins pour les managers à payer. Et c'est du temps en moins aussi, après le recrutement, à donner à leurs agents pour leur formation, puisqu'ils seront plus vite opérationnels. Et en même temps, ce sera bénéfique financièrement pour les personnes venant des sapeurs-pompiers, puisque les formations sont payantes.
Et pour dans le civil, et
voilà, exactement,
qui
dans
peuvent
le civil.
Passer.
Et comme ils viennent du SDIS, c'est le SDIS qui paiera ses formations.
Le PRV1, le PRV2 par exemple, qui peuvent être des spécialités chez les sapeurs-pompiers.
Exactement, et puis ce sont des formations obligatoires aussi pour monter en grade au sein des sapeurs-pompiers.
D'accord, donc en fait, là on a vu tous les avantages qui sont quand même super intéressants pour chaque métier. Par contre, on peut soulever, je pense, plusieurs problématiques dans ces passerelles.
Tout à fait. Le plus gros problème est que des SDIS peut accepter des SIAP après l'évaluation de leur aptitude sans repasser de formation complémentaire. Donc nous aurons des futurs sapeurs-pompiers sans formation de sapeurs-pompiers et donc avec un gros manque de connaissances professionnelles et techniques sur le terrain.
Par exemple, pour des SDIS qui sont vraiment rechercheurs de futurs sapeurs-pompiers, ils peuvent laisser passer un dossier sans que l'agent futur sapeur-pompier n'ait à repasser de formation sur ce monde-là.
C'est ça. Un SDIS qui est vraiment en manque de personnel pourra accueillir des SIAP sans formation pour avoir plus vite du personnel opérationnel.
Donc il y a en fait une prise de conscience à avoir pour les futurs agents. Qui est de se former eux de leur côté et de pallier à ce manque de connaissances pour pouvoir être totalement à l'aise sur intervention.
Exactement. Et à l'inverse, un sapeur-pompier qui passe SIAP aura quand même quelques connaissances, mais pas assez sur tout ce qui est technique au sein des établissements recevant du public et les sapeurs-pompiers. Se reposeront beaucoup sur leur acquis par rapport à ce que les SIAP auront comme connaissances.
Par exemple, un sapeur-pompier qui devient SIAP, donc eux ont quand même eu une formation de 43 heures, mais le souci, ce serait qu'il n'y ait pas d'évaluation finalement à l'issue de celle-ci.
Exactement. Comme il n'y a pas d'évaluation à la fin de ces formations complémentaires, un sapeur-pompier qui ne s'est pas impliqué dans la formation sera SIAP sans aucune formation comme un SIAP devenant sapeur-pompier au final.
Et il y aura donc des grosses lacunes et pourra laisser passer certains points.
Exactement, c'est ça.
J'avais une question, est-ce que en passant d'un domaine à un autre, on n'a pas une difficulté à se décrocher du rôle de son ancien métier ?
Si, bien sûr. Comme ce sont deux métiers qui se rapprochent beaucoup, il faut quand même faire la part, séparer ces deux métiers. Un SIAP sera plus dans la prévention et dans les ERP, tandis qu'un sapeur-pompier fera beaucoup de secours à personne.
Et de plus généralement, en fait, toutes les missions sur lesquelles ils pourront peut-être appeler. Donc vraiment, scinder les rôles, quoi.
Exactement. Après, ils retrouveront des similitudes quant au rythme de travail. Les agents de sécurité incendie travailleront beaucoup en 12 heures, ce qui est le maximum légal.
Également le cas chez les sapeurs-pompiers, donc.
Et c'est exactement le cas chez les sapeurs-pompiers qui travaillent toujours en 12 heures minimum. Après, ils peuvent travailler en 24 heures ou en 48 heures pour les pompiers militaires.
Donc par contre, ce ne sera pas la même demande d'attention pour chaque métier.
Aussi, un SIAP sera beaucoup plus attentif sur ses 12 heures qu'un sapeur-pompier, puisque un SIAP doit veiller au bon fonctionnement de tout son système ou son matériel de sécurité incendie, alors qu'un sapeur-pompier, pendant ses 12 heures de garde, il va attendre l'intervention. Donc il aura quand même beaucoup de repos s'il ne bouge pas beaucoup.
Il sera vraiment concentré pendant les interventions, mais hors intervention, il aura plus l'esprit libre qu'un SIAP devra avoir.
C'est ça, oui.
Donc ce serait peut-être aussi un point important pour un sapeur-pompier qui deviendrait SIAP, de ne pas relâcher l'attention et de prendre conscience de la différence de ce métier.
Exactement.
Et donc comment, Mathéo, selon toi, on pourrait justement assurer que ces passerelles forment correctement les futurs agents ou sapeurs-pompiers ?
Il faudrait déjà obliger d'avoir
des
évaluations et des examens à chaque fin de formation, ce qui n'est pas le cas pour des sapeurs-pompiers passant SIAP, et obliger du coup des formations obligatoires aussi pour les SIAP passant sapeurs-pompiers, puisqu'il est possible d'intégrer les sapeurs-pompiers pour des SIAP sans formation.
Oui, qui pourrait être en fait une mise à niveau sur les connaissances nécessaires pour les pompiers et qui justifierait ainsi leurs compétences.
C'est ça. On pourrait aussi mettre en place comme une FOAD qui existe déjà chez les sapeurs-pompiers, mais pour tout le monde, qui pourrait comme ça préparer les formations pour devenir sapeurs-pompiers pour les SIAP et inversement.
Une FOAD, donc, c'est une formation qui est ouverte et à distance sur une plateforme en ligne que pourraient effectuer donc, les futurs agents ou sapeurs-pompiers.
C'est ça.
Et qui ferait le lien en fait, entre les métiers et les points clés à ne pas négliger.
C'est ça. Et cette FOAD pourrait être accessible aussi à n'importe quel moment, une fois rentré dans le métier, pour revoir quelques bouts de formation que l'on souhaiterait revoir.
Qui serait donc intéressant pour rester toujours à jour et se recycler en fait soi-même par sa propre volonté.
C'est ça, exactement.
Je pense aussi que pour ces passerelles, il y a un gros manque d'informations à leur sujet.
Aussi, oui. C'est vrai que peu de personnes connaissent ces passerelles qui sont vraiment bénéfiques, tant pour les managers que pour les SDIS, puisque ça permet d'avoir des sapeurs-pompiers et des SIAP plus vite opérationnels et avec des formations réduites. Donc il faudrait
faire de la communication en fait inter-service.
Exactement.
Pour promouvoir un petit peu ces passerelles et qui pourraient être une belle amélioration concernant aussi le gros problème de pénurie de main-d'œuvre. Parce qu'en fait, les personnes concernées finalement sont très peu à connaître ces outils.
C'est ça, ils sont très peu au courant de ces passerelles.
Oui, donc un gros axe d'amélioration serait donc la publicité.
De faire de la communication, oui.
Eh bien, je te remercie Mathéo. Je pense qu'on a fait le tour un peu de tous les sujets à aborder sur cette passerelle.
On a fait le tour et je te remercie aussi d'avoir témoigné sur ces passerelles.
Avec plaisir, en espérant qu'on pourra se retrouver sur un autre thème.
Sur un autre sujet, oui.
Puisqu'il existe différentes passerelles aussi. pour d'autres métiers également dans le domaine de la sécurité.
Ce sera avec plaisir d'aborder d'autres sujets avec toi.
Et merci. Ben,
merci.
Voilà, j'espère que cette information vous a plu et si vous pensez que cela pourrait servir à d'autres personnes, n'hésitez pas à commenter et liker ce podcast, et n'oubliez pas de vous abonner au site de la sécurité privée 83 629, ainsi que sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok. Pour me retrouver facilement, tapez 83 629 ou sécurité privée sur votre barre de recherche. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que le savoir, c'est le pouvoir.